Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et pour commencer cette émission, nous accueillons Alexandre au 3921. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Alexandre. Vous nous appelez d'où Alexandre et quel âge avez-vous ?
Alors, j'ai 36 ans, j'habite au Bervilliers. Et là, je vous appelle de la Sarthe, puisque je suis chez ma mère en convalescence, figurez-vous.
D'accord. Où exactement dans la Sarthe ?
Eh bien, c'est une petite commune qui s'appelle Champagné, c'est à côté du Mans. Voilà.
D'accord, très belle région de la Sarthe.
Ah ben, oui.
Vous êtes donc en vacances ou non, en convalescence, vous m'avez dit ?
Oui, oui, oui. Alors bon, rien de bien grave. J'ai eu une petite opération. Il s'avère que je ne pouvais pas rester tout seul. Et ma mère a spontanément proposé que je puisse venir chez elle passer cette convalescence. Ce qui reboucle un peu avec l'histoire dont on va, je pense, un peu parler tout à l'heure. Sur le fait que, aujourd'hui, les relations avec ma mère sont plus que belles. Elles ont retrouvé cette grande affection, cette grande proximité que nous avions perdue lorsque elle a compris que j'étais gay.
D'accord, ouais. D'accord. Alors, vous allez nous raconter cette histoire, Alexandre, et puis on va vous écouter, puisque, comme vous l'avez dit aujourd'hui, la boucle est bouclée, et en ce jour de lutte contre l'homophobie et la transphobie, et finalement, tout le rejet hein, et toutes les agressions dont peuvent être victimes les gens qui sont différents, finalement, eh bien, vous avez vécu vous-même ce rejet de la part de votre mère. Donc, on vous écoute. Vous aviez 16 ans, donc.
Oui, c'est une histoire qui arrive tous les jours à énormément de jeunes filles et de jeunes garçons. Elle est extrêmement simple, en fait. Je suis tombée amoureux. Voilà, je suis tombée amoureux. Il s'avère que c'était un garçon qui était brillant, très intelligent, qui me faisait énormément rire. Et c'était mon premier amour partagé. C'est-à-dire que pour la première fois, lorsque j'ai dit « je t'aime », on m'a répondu « bah moi aussi, je t'aime ». Donc ce moment-là a été absolument magique. Et je pensais pouvoir le partager en famille parce que c'était pour moi une manière de leur dire à quel point, un, j'étais épanouie et extrêmement heureux d'être moi, et deux, de pouvoir leur dire ce secret que j'avais, qui était que, je n'aime pas les filles, j'aime les garçons, que c'était pas anodin. On était en 2002. À cette époque et c'est 2002, c'est ce moment où nous avons des manifestations avec les PD au bûcher écrits sur des pancartes ou même scandés, où à chaque fois qu'il y a un reportage sur une Pride, c'est accompagné de remarques extrêmement désagréables. Alors ça n'a pas forcément tout à fait changé, mais en tout cas l'ambiance de l'époque vis-à-vis de l'homosexualité était quand même extrêmement difficile. Et donc, partager ce secret, cet intime, cette identité, cette chose qui me constituait fortement avec ma famille, c'était un bonheur immense. Sauf que ça ne s'est pas passé tout à fait comme je l'avais rêvé, comme je l'avais souhaité. Et mes parents, en fait, ont été confrontés à ce qu'ils n'avaient pas forcément voulu voir, à ce qu'ils n'avaient pas forcément voulu imaginer, alors qu'il y avait quelques signes précurseurs quand même. Et en fait, lorsque mon ami est arrivé et que je l'ai juste présenté comme un ami et qu'ils ont compris que c'était mon petit copain avant que je puisse faire cette révélation, ça s'est très mal passé.
Alors, on va voir de quelle manière ça s'est passé, dans quelles circonstances vous leur avez révélé ou ils ont compris. Avant cela, vous parlez de secret. Cela veut-il dire qu'à l'école, devant vos copains, vos copines, c'était quelque chose que vous cachiez, vous en étiez ouvert à, je ne sais pas moi, une meilleure copine ou un meilleur copain, ou alors à personne.
En fait, je crois que tous les enfants gays et lesbiens le savent, surtout les gays. À l'école, les enfants ont une représentation extrêmement claire de ce que doit être un garçon ou une fille. Et donc, si on dénote un tout petit peu de cette...
Je vous perds un peu, Alexandre.
Est-ce que vous me réentendez mieux ?
Voilà, très bien, très bien.
pardon. Mais les murs sont épais dans cette maison. Du coup, les enfants, très jeunes, ont une préscience de ce que doit être un garçon, très masculin, etc. Donc ça doit jouer au foot, ça doit se bagarrer. Et si on ne joue pas au foot et qu'on se bagarre pas, c'est qu'on est une femmelette. Très rapidement, on est soupçonné d'être un PD. Sans forcément d'ailleurs comprendre pour tout le monde ce que ça veut dire. Moi, j'avais conscience, enfant, que j'étais pas amoureux des filles, j'étais plutôt amoureux des garçons, mais que c'était pas normal. Que la représentation que je m'en faisais, c'était qu'il s'agissait d'un secret, mais j'allais dire d'une honte à terre, et même potentiellement d'une souffrance à infliger à mes proches que d'être comme ça. Alors, autant vous dire que des années après, j'ai compris que c'était une souffrance que je m'infligeais à moi-même que de penser ça, que de penser une honte. Aujourd'hui, je m'en suis évidemment libérée et j'espère pouvoir accompagner autant de monde que possible à le faire. Mais il s'avère qu'enfant, il y a très peu d'écoute. Alors, parfois, un camarade avec qui j'étais très amie m'avouait lui aussi être plutôt proche des garçons, etc. Et puis, c'est arrivé d'avoir des moments de complicité où on comprenait qu'il se passait quelque chose, mais sans jamais réussir à aboutir plus loin, jamais. Parce qu'il y avait ce tabou extrêmement fort de « il ne faut pas que ça survienne ». Parce que là, c'est un danger. C'est un danger, on ne sait pas vraiment pour qui ni comment, mais c'est dangereux si ça arrive. Or, ça ne l'est pas. Voilà, ça ne l'a jamais été.
Et donc, du coup, en fait, personne... Enfin, c'était entre adolescents, parce que je repensais à quelque chose. En 2002, il n'y avait pas les réseaux sociaux.
Non.
Ça n'était pas du tout la même époque qu'aujourd'hui. Vous la sentez, cette différence entre aujourd'hui, où finalement le genre est au cœur au cœur des discussions entre jeunes, hein, et même affiché. Le genre fait partie même des sujets, des thèmes qui sont chers aux adolescents aujourd'hui, alors qu'en 2002, ça n'était pas du tout le cas.
Alors, effectivement, tout ce qui est lié aux questions du genre, de l'identité romantique ou de l'identité sexuelle, alors, ce sont vraiment trois choses qui peuvent être extrêmement différentes, mais qui convergent exactement comme la lutte contre l'homophobie converge avec la lutte contre la misogynie aussi, et contre les violences faites aux femmes. Tout ça converge vers la lutte contre ce masculinisme et ce viriarcat, ou on pourrait dire le patriarcat. Bon, alors il y a énormément de mots très savants dans lesquels beaucoup de gens ont écrit, composent beaucoup de littérature et théorisent, d'accord. Par contre, quand on le vit, soit en tant que gay en 2002 et en tant que gay en 2021, on voit le cap qui a été franchi en 2002. L'homophobie n'était pas inscrite encore comme étant dans la loi.
Oui,
alors, elle a été dans 2005, et ensuite le mariage est arrivé, et ensuite d'autres choses arrivent. Là, il y a la PMA, il y a les questions sur les thérapies de conversion qui doivent être interdites également. Enfin, on progresse au fur et à mesure. Et moi, c'est une anecdote toute bête, mais quand j'étais jeune étudiant, je suis allé faire un laser game avec des copains, et j'ai vu un couple d'adolescents, ils avaient 15-16 ans, un couple de garçons. Et je me suis dit, mais ils s'affichaient publiquement en tant que couple. Et c'était 10 ans à peine avant mon propre coming out. Et je me dis, mais il y a 10 ans, ça n'aurait pas pu avoir lieu. C'est idiot de se dire ça, mais on a franchi des caps extraordinaires. Il reste encore beaucoup de choses à faire, autant en France qu'à l'international, et même au niveau européen. Au niveau européen, quand on voit ce qui se passe en Pologne, sur les zones LGBT free, enfin, moi, je trouve ça absolument révulsant. Donc, il y a énormément de combats et de sensibilisation à mener. Et cette nouvelle génération qui a ces réseaux sociaux est absolument extraordinaire parce qu'elle s'interroge. Alors, parfois, elle se croit, dotée d'un savoir encyclopédique extraordinaire et pouvant dire aux anciens militants « Nous, on sait, vous savez pas. »
Oui.
C'est parfois vrai. C'est parfois putain, parfois faux. Et il y a par contre besoin de cette communication générationnelle, parce que dans le militantisme gay, il y a eu énormément de combats qui ont été menés. Il y a une mémoire de ce militantisme. Je veux dire, moi, tous les ans, je commémore Pierre Sille qui a été déporté homosexuel, par exemple. Enfin, on n'en parle pas suffisamment. Il faut le savoir, il faut s'en souvenir, il faut le perpétuer, c'est important. Moi, j'aimerais que toutes les associations gays et lesbiennes soient présentes lors des commémorations, notamment pour la journée de la déportation. C'est extrêmement, c'est important, ça. Voilà.
Bien sûr, vous avez raison.
Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, ce dialogue générationnel se fait un peu.
Il est difficile quand même.
Ouais, oui, mais en même temps, il est le reflet de cette envie d'avancer.
Donc... Oui, complètement. Mais il y a quand même une difficulté de la part de ces jeunes générations à écouter, à entendre que tout ça a existé avant, que la lutte a commencé bien avant. Je sens ce rejet, cette espèce de côté un peu radical que vous devez ressentir hein, dans ce type de combat, et qui est assez gênant, hein, finalement.
C'est une génération qui est extrêmement libre. Être libre, c'est se définir comme entre les autres, c'est-à-dire en allant plus loin que les autres, en s'extirpant de ce que l'histoire a fait et de ce que les autres ont fait de l'histoire. Donc je suis un peu gênée parfois quand je vois que le mouvement LGBT prend des tournures un peu trop politiques sur des sujets qui sont vraiment très border, qui la concernent pas tout à fait, mais c'est mon opinion de personne qui a vécu une homophobie latente d'ambiance extrêmement forte, où la représentation de l'homosexualité s'arrêtait à la cage aux folles et à pédale douce, et encore, on était bien chanceux quand c'était ça. Donc, je suis le produit aussi d'une intériorité paranoïaque de ce que les autres peuvent penser de moi par rapport au fait que je sois gay.
Oui, je comprends. C'est sûr que à l'époque, ça n'était pas du tout facile et vous étiez en province en plus, hein, je suppose.
Oui, on avait ce plaisir, ouais.
Oui, ce plaisir.
Ouais, c'était assez particulier parce qu'effectivement, quand on est gay dans un petit village de 250 habitants, dont 343 moutons, l'addition est fausse exprès. C'est compliqué.
Bien sûr.
Mais
Même si bien évidemment les choses ont évolué, est-ce que ça reste compliqué en province par rapport aux grandes villes aujourd'hui?
Alors, ce qui est compliqué.
Je vous ai perdu, Alexandre. Ah, ça y est, je vous ai retrouvé.
Pardon, les murs sont vraiment beaucoup trop épais. En fait, ce qui est très compliqué, je pense que c'est essentiellement le manque d'endroits communautaires où il est possible de se retrouver, de partager des expériences, où il est possible de pouvoir se sentir moins seul. C'est ça qui est difficile. Après, aujourd'hui, en termes de compréhension, d'acceptation, j'ai le sentiment qu'on a énormément avancé.
Énormément.
Vraiment.
Même dans les campagnes, vous pensez?
Oui. Alors, ça reste toujours très difficile. J'ai été président d'association, j'ai rencontré des gamins, des ados, des jeunes adultes et même des personnes seniors qui faisaient part de leur homosexualité ou de leur bisexualité ou même de leur transition de genre et qui se confrontaient à des familles qui les violentaient, qui les mettaient dehors. Donc ça arrive toujours, évidemment. Par contre, quand ça arrive, les structures sont organisées aujourd'hui pour pouvoir accueillir, écouter, aider, accompagner. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et surtout, il y a, je pense, un tabou qui est arrivé, non plus sur l'homosexualité, mais sur l'homophobie. Le tabou a changé de camp, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens.
D'accord. Alors, revenons-en à votre histoire. Parce qu'en 2002, donc, vous faites très discret. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'époque à croire que vos parents allaient partager avec engouement et avec joie ce secret? C'est l'amour qu'ils vous portaient, je suppose.
Oui, qu'on se portait mutuellement. On était une famille Nutella, je ne veux pas citer de marque, mais on était une famille modèle, tout se passait très bien, je veux dire, tout était basé sur l'amour, la confiance, et il n'y avait aucune raison que quoi que ce soit nous fasse dériver de ce modèle d'amour, de confiance, de plaisir, de partage, et du fait que ce qui nous arrive de bien rendre tout le monde heureux, Voilà. Donc, moi, j'y allais la fleur au fusil, concrètement. Ouais. Et effectivement, donc, on était à la campagne, j'ai invité cet ami à venir. Et puis, je l'ai présenté comme un ami d'abord.
Mmh. Et vous étiez rencontrés comment, tous les deux ?
Eh bien, on s'était rencontrés par l'un des objets qui était extrêmement important pour les gays à l'époque, c'est le journal Têtu. Puisque c'était l'un des seuls objets LGBT qu'on pouvait consulter, qui parlait de tout, de culture, etc. Et il y avait la page des lecteurs. Il s'avère que mon ami avait écrit un petit commentaire que je trouvais fort pertinent. Je lui ai répondu, on a commencé une relation épistolaire, donc forcément c'est extrêmement romantique. J'ai 16 ans, je corresponds avec un garçon qui est brillant, enfin voilà, c'est, pour moi c'est absolument formidable. Et il s'avère qu'on se rencontre. Voilà, je trouve une solution, lui il habitait Paris, je trouve une solution pour le rencontrer. Voilà, bon, je tombe instantanément amoureux, c'est une histoire qui commence, c'est ma première histoire d'amour qui commence, et puis j'organise un séjour chez moi pour qu'il puisse passer 3-4 jours à la maison, et je me dis que je vais en profiter pour pouvoir du coup aussi le présenter à mes parents. Comme, j'allais dire, n'importe quel garçon hétéro pourrait présenter sa copine à ses parents. Voilà. Et donc il arrive, ça se passe de mon point de vue plutôt bien, et ma mère m'expliquera plus tard qu'en fait ils ont compris tout de suite ce qui était en train de se tramer. Mmh. Et je pense que bien des années après qu'effectivement ça a été un peu violent en termes de réception.
Ah oui, oui.
Et je comprends complètement ça, et je pense que même aujourd'hui, malgré l'ambiance beaucoup plus détendue sur ces sujets-là, pour des parents ça peut être très violent, et il faut l'entendre, parce que nos parents grandissent avec des images, avec des représentations, et il faut respecter cela, il faut réussir à pouvoir leur dire que le problème vient d'eux, pas de nous, mais qu'ils vont devoir progresser, mais que c'est normal si parfois ils le reçoivent de façon très violente. Et là, la réaction ne s'est pas fait sentir, ça n'a pas tardé, puisque du coup, ma mère a demandé est-ce que mon ami parte là.
C'est votre mère qui a demandé, ou votre père, en fait c'est votre mère qui était la plus virulente?
Oui, oui, oui. Oui.
C'est étonnant, non? Enfin, je ne sais pas, ça ne vous a pas surpris?
En fait, on a une relation extrêmement fusionnelle, et je pense que sa réaction à elle est aussi à la hauteur de l'affection et de l'amour qu'on se porte. Alors, je ne dis pas que mon père m'aime moins, mais la relation que j'ai avec ma mère est particulièrement privilégiée, effectivement. Et ce qui est une caricature ou un stéréotype de gay, hein, peut-être, j'en sais rien, mais c'est pas
ouais,
le sujet.
Non, enfin, je pense pas, mais bon.
et du coup, je pense qu'effectivement, oui, sa réaction a été à la hauteur de cette incompréhension et de ce sentiment peut-être de trahison.
Mais c'est ça que j'allais vous demander, en fait. Est-ce que c'est une mère trahie, blessée, parce que justement, vous n'avez pas confesser vraiment cette chose importante qui est en vous, cet amour que vous avez pour ce garçon, est-ce que la blessure est à la hauteur de la trahison, ou mais on le verra ensuite dans votre histoire, ou c'est aussi et surtout quelque chose qui ne passe pas, qui est impossible pour elle à accepter, ou les deux?
Les deux, mon amiral, hein.
D'accord.
Effectivement. Il y a quelque
la
chose
totale.
Parce qu'il y a, c'est généralement la convergence de plusieurs choses. D'une part, la difficulté de représentation, le fait de se dire quoi. Mais alors, attends, je vais pas être grand-mère, je vais pas faire de mariage. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a tout ça qui se met en marche. Je rappelle qu'on est en 2002, tout ça est très. Voilà. Il y a la peur du sida qui arrive tout de suite, parce que dès qu'on parle homosexualité, même encore aujourd'hui, les gens vont répondre sida. Voilà. Enfin, en tout cas, l'ambiance homophobe fait que ça en parle tout de suite. Alors qu'il y aurait énormément de choses encore à dire là-dessus, parce que la sérophobie, mon Dieu, c'est terrible. Et du coup, il y a ça qui arrive. Il y a, mais que vont dire les voisins?
Oui.
Mais qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je n'ai pas... quelle est l'étape que j'ai loupée pour que ça soit comme ça? Donc, il y a la culpabilité intériorisée qui rejaillit en colère, qui rejaillit en expulsion. Et c'est un moment, c'est un maelstrom d'émotions qui est difficilement contrôlable, je pense.
Oui, oui.
Et qui provoque effectivement cette cassure. À ce moment-là, avec ma mère.
Qui se traduit en grosse colère, en furie. Comment se traduit-elle par une colère froide?
Ah, ça a été une colère très froide. Ça a été des mots très blessants. Alors, le classique, hein, c'est « comment tu peux me faire ça ?»« C'est pas tolérable, je ne l'accepte pas », etc. Enfin, voilà, c'est-à-dire « tu ne corresponds pas à ce que tu dois être ». C'est-à-dire que tu n'es...
Ce que tu dois être dans ma tête.
Oui, exactement. Mmh. Tu n'es pas dans ma représentation. Et donc, quand on est enfant, en tout cas jeune ado, effectivement, on le reçoit comme un désaveu, d'une part, un désamour également. Parce que jusqu'à présent, enfin moi, ma crise d'adolescence, je n'avais pas eu besoin de la faire. Enfin, tout se passait très bien. Je n'avais pas besoin d'être en rébellion ou de quoi que ce soit. Et alors... Cette colère, elle est passée effectivement par un détachement également réel, physique, quotidien. Voilà. Il s'avère que moi, c'est l'année aussi où j'ai passé mon bac, je suis partie à l'université ensuite, et ça a été un espacement social assez important. Voilà.
Pour ne pas dire rupture, Alexandre?
Oui, exactement. mais c'est le terme est celui-ci. Exactement. Ouais. Avec l'idée que l'on va se construire non plus avec une famille, mais malgré sa famille. Et que l'on est seul. Et que du jour au lendemain, on est un paria et on est seul. Et que l'on a probablement fauté sur quelque chose. Et en même temps, on estime que non, on n'a pas fauté, on est heureux d'être ce que l'on est. Et ça nous met dans une position paradoxale très difficile à résoudre. Parce que l'on voudrait à la fois faire plaisir et ne plus être ce qui est l'abomination aux yeux des autres. Et en même temps, on a le droit de vivre son propre chemin. Et que l'on n'a pas choisi, puisque c'est absolument naturel. Mmh. Ce n'est pas un caprice d'être gay. Parce que, voilà, mon Dieu, sinon on serait beaucoup à ne plus l'être. Mais non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc on a eu cette rupture qui a été effectivement très difficile, autant pour elle que pour moi. Et puis il s'avère que le destin ou n'importe quel autre terme derrière fait qu'on s'est rapproché suite à un accident qu'elle a eu. Un accident assez grave et c'est pas tant la crainte de me dire mais... on ne peut pas rester comme ça, que de considérer qu'en fait, toutes ces années ont été, toutes ces années passées à ne plus parler ou à s'ignorer un peu ou à avoir cette colère froide, que c'était des années gâchées, terriblement gâchées, en fin de compte, pour pas grand-chose, uniquement pour le sentiment coupable et d'elle et de moi d'avoir mal fait quelque chose. Donc, on s'est rapprochés, on s'est parlé un peu, beaucoup. On s'est compris aussi, on s'est pardonné beaucoup de choses également. Elle, de son côté, a fait un énorme chemin également, puisque elle avait consulté un thérapeute en considérant qu'il fallait pouvoir me guérir. Et le thérapeute a tout à fait compris en disant « Madame, en fait, c'est vous qui avez un problème, c'est pas votre fils ». Donc, j'ai eu de la chance que ma mère a fait son chemin de son côté. Et quand on s'est retrouvés, on a parachevé ce chemin ensemble. Et à tel point, d'ailleurs, qu'à l'apogée de tout ça, moi, j'étais président d'une association LGBT à ce moment-là. Et elle est venue me rejoindre dans l'association pour aider et accompagner les parents de gays, lesbiennes, trans, de bi aussi, qui n'acceptaient pas cette
Alors,
situation.
On va voir, vous évoquez cet épisode, et on va marquer une petite pause car l'info oui. arrive sur Europe. Mais on va voir qu'elle savait les aider parce qu'elle a eu et la présence d'esprit, et l'intelligence, et l'amour aussi de reconnaître et de raconter oui. tout ce qu'elle avait pu penser et dire de vous oui. pour que ses parents le comprennent bien. Mais on va en parler après l'info. Vous restez avec moi, Alexandre. On se retrouve dans quelques instants.
Merci.
À tout de suite. 23h passées de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7-39-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, comme Gay Annie le fait ce soir pour souligner le super témoignage dans la compréhension, la mesure d'Alexandre. Merci pour lui, Annie. Témoignage que nous n'avons pas encore terminé, Alexandre, puisque nous en étions à cette phase de retour de votre mère qui... Donc pendant combien de temps, en fait, vous ne vous êtes pas vraiment parlé ?
Ah, on a mis 10 ans à se rapprocher doucement. Voilà. Ça a mis à minima 5 ans à être extrêmement froid, très difficile et très distendu. Il y a eu quelques épisodes comme ça où voilà, les contingences familiales font que, mais il n'y avait plus cette proximité. Et puis, il y a eu l'accident, et il y a eu les échanges, et ça a mis vraiment 10 ans à revenir, à se normaliser, à ce qu'on puisse dire en fait les choses, et à retisser cette toile d'amour familial, filial qui nous unissait. Quoi.
Alors j'évoquais avant l'info que votre mère a eu... cette intelligence, cette présence d'esprit d'évoquer tous les sentiments qui l'avaient habité à la découverte de votre homosexualité, notamment ouais. bon, la colère, mais le dégoût aussi, parce que je sais qu'aujourd'hui... Elle a écrit d'ailleurs un livre à ce propos, qui s'appelle comment ? Rappelez-moi le titre.
Alors, c'est un livre qui s'appelle « Moi, homophobe ».
Moi, voilà. homophobe, d'accord.
C'est un titre qui est très dur. Très dur, vraiment.
Oui, qui est très dur, mais je trouve quand j'ai pris connaissance de ce livre, il y a quelques années, puisque je l'avais lu, je trouve que ce titre avait la vertu d'être, comment vous dire, très dur, mais un véritable uppercut, parce que c'est exactement ce qu'elle était durant un long moment. Elle était homophobe, elle vous a rejeté, mais parce qu'elle avait des sentiments et une incompréhension totale et une non-connaissance d'ailleurs de l'homosexualité. Et puis, tout à coup, c'était son fils. Donc, elle se dressait en ennemie des homosexuels. Elle a été très loin dans la haine qu'elle a pu éprouver.
Et il y a quelque chose que je tiens vraiment à partager par rapport à ça. Et c'est que nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui, aujourd'hui et hier, au moment de la sortie du livre, jugent ma mère encore aujourd'hui, en disant « Mais comment c'est possible ? Comment peut-on faire ça ? Comment peut-on dire ça à son enfant ? Moi, je l'accepterai, etc. » D'une part, attendez que ça vous arrive, on en reparle à ce moment-là.
Oui, complètement.
Et d'autre, voilà, parce que c'est très facile de juger chez les autres. Et d'autre part, le chemin qu'elle a fait, depuis ce rejet très fort et cette homophobie latente, ce chemin de vérité qu'elle est allée chercher au fond d'elle-même, en allant déterrer des choses qui étaient très difficiles dans son histoire personnelle, dans la manière dont elle s'est construite, dans ses représentations, dans ses propres souffrances familiales. C'est-à-dire que l'homophobie n'est pas que un sentiment, c'est une construction aussi. Et ce qu'elle a fait pour aboutir à ce livre où elle se livre totalement, où elle explique, permettant à d'autres parents, à d'autres proches de comprendre que, bah oui, on peut être sur un état d'homophobie forte, latente, et arriver à ce stade où cette homophobie se déconstruit. Parce qu'on arrive à un point de convergence très simple, qui est l'amour que l'on a à partager avec ses enfants. Et c'est ce qu'elle a réussi à transcender. Et honnêtement, je souhaite lui rendre hommage, parce que tout ce qu'elle a traversé pour en arriver à l'écriture de ce livre, puis à accompagner des parents et à accompagner la lecture de ce livre partout, parce qu'elle a fait un petit tour de France, elle a fait des émissions, voilà, et notamment de très belles, je tiens à le dire. Elle a eu énormément de courage de le faire.
Oui, oui, et en plus, je souligne le côté vraiment éducatif par rapport aux autres parents, parce qu'elle a été capable de parler avec des mots très simples de cette haine, de ce rejet, mais aussi avec des mots très simples de sa transformation, de sa transition, on va dire, vers la compréhension. Et ce qui fait d'elle aujourd'hui encore, je trouve, l'une des mères que l'on doit écouter, que l'on doit lire, parce que ces mots résonnent de manière simple et forte, comme le titre d'ailleurs, le titre qui, vous avez raison de le dire, est très, très dur. Mais ses parents ont été réceptifs, je pense qu'elle a converti pas mal de parents dans ce Tour de France.
Oh, il y a eu, écoutez, ça a été assez extraordinaire. On a eu beaucoup de messages. Alors, quand je dis « on », c'est parce qu'on a fait une page Internet à l'époque pour pouvoir recueillir des témoignages, répondre à des questions, parce qu'on nous pressait quand même pas mal. Et parce que les gens voulaient les inviter, enfin, les gens, des librairies, et puis des associations, et des groupes de parole. Et puis... Ça a été assez démentiel. Il y a des périodes où on recevait plus d'une centaine de messages par jour. Qui, pour quelqu'un qui vient juste écrire un bouquin en lui parlant de sa vie et parlant simplement de son parcours, est assez exceptionnel d'arriver comme ça à un tel niveau de sollicitation. Des fois extrêmement pressant, des fois... D'ailleurs, il était très difficile de pouvoir, répondre à tous avec la même attention, et puis de pouvoir dire, écoutez, on n'est pas votre thérapeute, donc ce que vous dites est important, on accueille votre message, mais il faut pouvoir peut-être aussi vous ouvrir à d'autres personnes qui vont vous aider, vous, à construire cette... à vous reconstruire déjà, et puis à reconstruire cette relation perdue, parce que c'est possible, parce que... il y a... malheureusement des situations absolument effectivement qui sont terribles aujourd'hui dans les relations filiales sur des rejets d'homosexualité ou de transidentité. Mais je suis absolument convaincu, c'est un sentiment tout à fait personnel, probablement que des gens viendront me contredire, mais je suis absolument convaincu que ce n'est pas un point fixe, c'est-à-dire que c'est... on est tout à fait en capacité de faire évoluer l'homophobie, c'est quelqu'un, voilà, on peut la déconstruire. Et c'est vrai que voilà, ma mère a beaucoup participé à ces ateliers, a accueilli beaucoup de parents et beaucoup aussi de jeunes gays et même qui avaient besoin de comprendre, qui avaient besoin d'être sensibilisés à pourquoi mes parents réagissent comme ça. Mmh.
Voilà. D'ailleurs, si on a cette journée, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, l'homophobie, la transphobie et toutes les agressions de personnes qui sont différentes de par leur sexualité, de par leur genre, existent aujourd'hui partout dans le monde, il faut rappeler que les actes homophobes et transphobes existent en France et de manière récurrente. Et c'est ce pourquoi, ce soir, on a décidé d'en parler et d'en reparler et que ici sur Europe 1 on ne s'arrêtera jamais de parler de ce thème, parce que c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent rien, qui considèrent tout cela comme des déviances, comme tout un tas de choses, enfin des gens qui n'y comprennent rien et qui ne cherchent pas à comprendre, et c'est en ça qu'il faut toujours répéter et se battre et essayer avec des mots simples, même avec des mots compliqués pour ceux qui aiment les mots compliqués, mais avec des mots simples, de rappeler que c'est... moi, je vais vous citer une histoire simple, en fait. J'ai un ami qui avait beaucoup de mal avec l'homosexualité. Alors, il avait beaucoup de mal. Ça n'est pas qu'il ne l'acceptait pas, mais il avait beaucoup de mal, tout simplement naturellement. Il ne comprenait pas comment un garçon... pouvait embrasser ou vouloir faire l'amour avec un autre garçon. Et il s'est retrouvé à travailler avec... il était réalisateur et il a travaillé avec un assistant réalisateur pendant 2 ans. Ils ont réalisé des choses ensemble et il se trouve, il m'a raconté qu'un jour, en fait, il a abordé ce truc-là avec lui disant qu'il s'en voulait beaucoup, mais qu'il avait beaucoup de mal à comprendre. Et mon pote m'a raconté que son ami, son collaborateur, mais qui était devenu vraiment quelqu'un de proche, s'est retourné vers lui et lui a dit: tu sais, François, la seule chose que je vais te dire, c'est simple, mais je pense que tu vas comprendre. Quand t'es né, toi, et que t'es devenu un garçon, dès que t'as su ce que t'avais dans la culotte, tu bandais pour les filles. Eh ben moi, c'est pour les garçons que je bandais. Et je peux te dire que j'aurais préféré être comme toi, mais la nature en a décidé autrement. Finalement, ce sont des mots simples, mais je peux vous dire que mon pote, du jour au lendemain, avec cette explication-là, il m'a dit, en fait, ça, je ne sais pas, il y a eu un déclic, il y a quelque chose qui s'est fait et j'ai compris tout un tas de choses. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, en fait, ce type d'anecdote ?
Alors là, Olivier, vous venez de dire quelque chose que je trouve extrêmement important. Ce collaborateur a dit, j'aurais préféré que ce ne soit pas comme ça. Mais
oui,
c'est comme
oui,
ça,
c'est oui.
Sûr, fait que c'est comme ça.
Il a même dit, je serais plus heureux, ouais. Crois-moi, je serais beaucoup plus heureux à être comme toi.
Ça, c'est une marque extrêmement intéressante de l'homophobie que toutes les gays, les lesbiennes, les bisexuels, les trans intériorisent tout au long de leur enfance, tout au long de leur vie, tous les jours, parce que c'est au travail, c'est dans la rue, c'est dans les médias, c'est à l'étranger, c'est une ambiance générale qui fait qu'effectivement, on intériorise cette haine en soi. Il s'avère que, pardonnez-moi, je rapproche avec le mariage, mais au moment du mariage pour tous, il y a eu des gens qui ont défilé contre ce nouveau droit. Et à ce moment-là, j'ai eu des amis hétéros, des parents qui m'ont dit « c'est fou, mais je crois que je comprends enfin ce que c'est que l'expression de l'homophobie ». Et ça m'a particulièrement marqué, parce qu'on a des personnes qui, jusqu'à présent, on avait entendu parler, mais ils ne l'avaient pas vraiment vécu. Et là, se sentaient agressés par des personnes qui reniaient un droit à leurs amis, à leur famille.
Exactement.
Et ça, c'est bête, hein, mais à partir du moment où on rentre en empathie, où on considère que l'autre ne se définit pas ni par sa sexualité, ni par son orientation romantique, ni par son orientation de genre, mais qu'on est en amour amical, professionnel, qu'on est en empathie avec cette personne, et qu'on sent qu'effectivement, ces agressions quotidiennes sont des points de souffrance, on commence à s'interroger. Le nombre de collègues que j'ai pu avoir, parce que mon homosexualité, moi je la vis de façon extrêmement ouverte et affichée, je ne m'en cache pas, voilà. Le nombre de collègues qui ont pu me dire pardon, par exemple, après avoir dit « oh quel pédé, on va te faire enculer », pardon hein, d'avoir ce langage un peu fleuri.
Oui, mais qui fait partie du langage, j'ai envie de dire, par exemple dans un stade, vous l'entendez, et voilà.
Voilà, exactement. Et c'est intéressant d'avoir du coup ses collègues, ses amis, ses proches qui disent oh, « pardon, je voulais, pardon, vraiment », et qui ont compris à ce moment-là la pression sociale aussi qu'il y a à être gay, lesbienne,
ouais,
trans.
Oui, une pression encore aujourd'hui, je le dis et le redis, une pression qui est là, même dans les grandes villes, parce que vous évoquez quelque chose qui est tout à fait simple, mais qui arrive tous les jours, PD, quel PD celui-là, les stades, les insultes entre jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, hein, sur les chantiers, ou dans la rue, qui peuvent fuser comme ça, et qui visent la communauté homosexuelle. On va marquer une nouvelle pause, Alexandre, si vous voulez bien, et puis on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
D'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 23h19 sur Europe 1. Vous êtes sur votre libre antenne. Vous pouvez continuer à nous appeler au 39-21. Nous échangeons avec Alexandre qui nous parle de sa vie, de sa jeunesse, hein, de cette de cette adolescence où sa maman découvre son homosexualité et la rejette totalement. Et puis aujourd'hui, la boucle est bouclée, jour mondial hein, de la lutte contre la transphobie et contre l'homophobie. Vous vous retrouvez dans la Sarthe avec maman, Alexandre. Comment est-ce que vous regardez tout ça, tout ce qui vous est arrivé? Est-ce que il vous arrive d'y penser avec une nostalgie alors on ne refait pas le passé, on le sait, mais lié à tous ces gosses qui aujourd'hui encore vivent ce que vous avez vécu et finalement vous qui avez réussi avec votre mère, parce que ce chemin il se fait à deux pour retisser les choses, vous qui avez réussi à vous rapprocher et à vous aimer à nouveau, est-ce que cette nostalgie elle est liée à tous ces gosses qui aujourd'hui sont rejetés par leurs parents, parfois d'une manière très, très dure et très extrême jusqu'à se retrouver à la rue? Est-ce que c'est quelque chose qui est teinté de cette nostalgie?
La singularité qui représente l'homosexualité rend plus fort, très clairement. Parce qu'on est dans une extrême solitude, parce qu'on comprend que l'on est en marge de la société, on comprend aussi que la société peut être un danger, on comprend que ses proches peuvent être des dangers également. Et quand on grandit, en tout cas c'est le sentiment que j'en ai aujourd'hui, on se raccroche énormément aux forces intérieures que nous avons et qui nous permettent de continuer, de survivre, d'avancer. J'utilise le mot survivre parce qu'aujourd'hui, chez les jeunes gays et lesbiennes, le suicide est la première cause de mortalité. C'est absolument terrible. Une personne transgenre sur deux a fait une tentative de suicide. Donc on est confronté à des violences qui sont inouïes. Et moi, aujourd'hui, avec ce parcours que j'ai pu avoir avec ma mère, qu'on a fait ensemble, et dont je suis extrêmement reconnaissant, vraiment, j'ai un amour infini pour la force qu'elle a pu avoir et pour ce qu'on a réussi à retisser ensemble. Je suis à la fois triste de savoir que ces situations perdurent, évidemment, mais pour être tout à fait honnête et tout à fait sincère, ça me donne une niaque supplémentaire pour continuer à promouvoir le fait qu'on peut avancer, on peut s'en sortir, on peut continuer à déconstruire. On aura toujours des cons, évidemment. Ça, c'est absolument indéniable, d'autant plus que les cons, aujourd'hui, vivent en autarcie et s'auto-entretiennent dans leurs conneries.
Oui, voilà. on parle souvent des cons ici. Comme nous savons qu'un con, généralement, ignore qu'il est con, je le dis souvent, il y a une masse de travail, vous vous doutez, de la masse de travail à accomplir pour essayer de le tirer de la pas facile.
Et j'accepte ma part de propre connerie que j'essaierai de travailler, je le promets. Mais le fait est que je vis à Aubervilliers. Aubervilliers, c'est un quartier qui est assez dur, là où je suis.
Pas facile d'afficher son homosexualité à Aubervilliers.
Eh ben moi, je décide de le faire de façon assez flamboyante, pour être tout à fait honnête, aux grandes dames de mes amis qui pensent que je suis suicidaire. Moi, je considère que ce qui ne se montre pas n'existe pas. Donc, il faut que ça existe aux yeux de ces gens, aux yeux des personnes qui m'entourent, voilà. Et vous savez, le soir, quand on se connecte sur les réseaux sociaux ou sur les applis de rencontre, c'est fou comme les homophobes du jour sont sur Grindr la nuit, quand même. En tout cas, sont sur les applis de rencontre. Voilà.
Ah oui,
vraiment, vraiment.
C'est dingue, ça cache quelque chose.
Bah, en fait, ça cache une intériorité familiale, culturelle, philosophique, parfois religieuse. Il y a énormément de tabous qui s'empilent les uns sur les autres et qui empêchent les gens de vivre. J'aimerais qu'on essaye justement d'encourager un maximum de gens à être libres penseurs, en tout cas à essayer d'aller se chercher eux-mêmes plutôt qu'à d'obéir à des dogmes, parce qu'ils se tuent à petit feu et ils véhiculent une homophobie au quotidien. Je le vois, moi, là où je suis. Et voilà, sans rentrer dans les détails, mais j'ai pu rencontrer des garçons, j'ai pu discuter avec eux, j'ai même pu en voir dans des bars. Et en fait, la journée, lorsqu'ils mettent un masque, ce sont les pires homophobes que j'ai jamais vus.
Ouais,
voilà.
Ouais, ouais.
Et ça me rend extrêmement triste, particulièrement, vraiment. Parce que là, il cherche à obéir à quelque chose.
Mais parce que la pression sociale reste très puissante aujourd'hui, et c'est ce pourquoi je vous disais qu'il ne faut pas baisser la garde et continuer à parler de cette lutte contre l'homophobie et donc, tout acte de rejet, hein, de toute façon, parce que cette pression sociale dont vous parlez, elle est bien présente, bien présente.
Et la loi est de notre côté. Je sais que c'est vraiment pas évident de l'entendre.
Important.
Mais c'est vraiment très important de le savoir. Aujourd'hui, l'homophobie, l'homosexualité n'est pas un crime, n'est plus un crime, n'est plus considéré comme une maladie. C'était le cas il y a quelques années encore. On a énormément progressé quand même. Et par contre, c'est considéré comme un crime. Donc, il ne faut pas hésiter à aller porter plainte. Il y a des policiers et des gendarmes qui sont formés pour ça. Moi, j'ai accompagné des gens dans des commissariats. J'ai vu des jugements aussi suite à des insultes homophobes, des actes homophobes. J'ai accompagné des victimes. La loi est là. Et l'État aussi est là pour nous. Et il faut faire valoir ça. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est difficile de pousser une porte et de se dire « je vais subir la double peine, celle d'être victime d'homophobie par mon agresseur et celle d'avoir un agent de police ou un gendarme qui va me rejeter une homophobie supplémentaire en comprenant pas ma situation. » Honnêtement, oui, c'est arrivé, beaucoup, parce que la société est hétéronormée, et aujourd'hui, ça progresse. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des associations.
Et je vous perds encore, revenez à l'endroit où je vous capte. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans nos commissariats, de plus en plus de fonctionnaires de police sont formés aujourd'hui à recevoir ces homosexuels qui sont agressés, aussi bien que ces femmes qui sont agressées, et qu'on a fait aussi beaucoup, beaucoup de progrès de ce côté-là.
Et il ne faut pas hésiter à contacter les associations, vraiment, se faire accompagner avec elles. Si vous n'avez pas envie d'y aller seul, porter plainte, allez-y accompagner. Quand on est gay, on n'est jamais seul. Il y a un arc-en-ciel tout le temps, quelque part sur Terre. Okay.
Donc, vous voulez que je vous fasse une confidence ? J'en ai même vu un aujourd'hui. Il y en avait un très beau qui partait en cette journée. Hein, vraiment, cette belle journée, il y en avait un qui partait de la Tour Eiffel et qui couvrait tout Paris aujourd'hui. Je me suis dit, c'est un signe.
Si c'est un arc-en-ciel, c'est chouette. Si c'est un gay, filez-moi son numéro, ça m'intéresse. on n'est pas seul. Quand on parle de communauté, pour moi, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. D'accord. Mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit encore. Aujourd'hui, effectivement, par rapport à certaines identités propres, on peut être la cible de haine. Et le fait d'être des LGBT, aujourd'hui en France, c'est aussi appartenir à une histoire de combat, de lutte, de culture, de code. C'est bête à dire, mais de partage d'expériences. Et on est très nombreux et nombreux à pouvoir tendre la main à tous les jeunes, mais même les beaucoup, beaucoup moins jeunes qui ont besoin d'en parler, de partager cela, de s'ouvrir aux autres. Alors, ça ne va pas forcément être facile, c'est évident. Tout changement nécessite un petit maelstrom d'émotions et de passage, ça branle dans le manche, quoi, voilà. Mais ça va bien se passer, in fine.
Voilà. Et puis, n'oublions pas une chose, Alexandre, c'est qu'on parle d'une histoire d'amour avant tout, hein, de partage, et qu'il faut le rappeler et s'accrocher à ce beau sentiment qui est souvent oublié, hein, mais on parle de l'origine de d'amour. D'amour. Donc,
d'amour, et pardonnez-moi d'être un peu vulgaire, mais parfois on peut juste parler de cul aussi.
Oui, c'est un peu des deux.
Ça peut s'arrêter à ça. Voilà.
Très bien, mille merci à vous Alexandre pour votre passage sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. N'oubliez pas d'embrasser votre maman, votre jolie maman
avec
d'ailleurs,
plaisir.
Parce qu'au-delà d'être courageuse, elle est fort jolie. Et puis je vous souhaite bonne continuation.
Merci, c'était très important. C'est très important ce que vous faites ce soir, Olivier. Merci beaucoup, vraiment.
Merci à vous.
Je vous embrasse.
Bonsoir, au revoir.